c'est l'histoire de Sergueï. Sergueï, au régiment, se fait un copain tchétchène. Il va le voir en Tchétchénie, il rencontre sa cousine, il épouse sa cousine, et il s'installe en Tchétchénie. Décembre 94, c'est la guerre, l'armée russe envahit la Tchétchénie. Que faire? Sergueï est russe, mais son cœur est tchétchène. Pendant qu'il se pose la question, une bombe tombe sur sa maison, sa femme est tuée. Sergueï, le russe, va se battre contre les Russes, mais pas gratuitement. Il faut bien vivre, et puis, quand c'est la guerre, on peut tout faire. Alors il travaille à façon, coup tordu, traquenard, enlèvement, il est payé au résultat. Mercenaire russe, travaillant pour les Tchétchènes, déguisé en russe, en uniforme, il entre partout. Il renseigne, renseignement payant. C'est une guerre de corruption, de blanchiment, de détournement, de cynisme pourrissant. La guerre finie, il ne s'est guère enrichi, il a failli mourir, il a tué, la guerre lui a plu, il rentre chez lui en Russie. Aussitôt, il est arrêté par le FSB, les services russes. Renseignement, trahison, mais Sergueï a prévu des renseignements, il en a aussi sur l'état-major russe en Tchétchénie, sur les gradés, sur des personnalités, sur les détournements massifs d'argent, d'armes, de pétrole. Sergueï est condamné. Pour le principe, 2 ans, 8 mois, puis libéré, mais à condition de continuer de renseigner comme ça, de temps en temps. Une fois, il a hésité, ça lui a coûté les 4 dents du haut. Sergueï a fini de raconter, il aime bien le monde musulman, il avait d'ailleurs un nom musulman en Tchétchénie. Aujourd'hui, il repartirait bien se battre, mais en Irak, contre les Américains. D'après Sergueï, ces gars-là sont des lâches, planqués dans leurs avions, mais au sol, il aimerait bien se faire quelques Américains. Et Sergueï se tait, et voilà une histoire d'ici, sur le front de l'Est, à Volgograd, où la nuit est tombée sur la neige, la glace et la Volga. En attendant, le coucou de Moscou, car demain nous partons pour Varsovie, pour Lublin exactement. À Lublin, si tout va bien, nous devrions retrouver des gens qui nous ont hébergés à Grozny, il y a 6 ans. À l'époque où Sergueï était lui-même à Grozny. Quand nous sommes retournés à Grozny, en décembre 2000, maison bombardée, famille disparue, alors recherche, message, attente. Et il y a 3 semaines, on a eu un message, la famille est retrouvée, la famille est réfugiée en Pologne, à Lublin, et demain, en principe, si tout se passe bien, nous devrions les retrouver. En tout cas, tout de suite, dans l'immédiat, dans la base où j'y suis, le chômage a une histoire, deuxième partie.
Au syndicat et par le truchement du dialogue, tu seras l'égal du patron dans le dialogue, hein. Parce que dans le détail, tu seras payé moins, puis c'est toi qui balayera la cour. Ah bon, je perds pas mon boulot? Non, non.
Ah ben, ça va. Salut, c'est Daniel Mermet avec Gilles Balbastre. Là-bas, si j'y suis, le chômage a une histoire.
Flight number 2, arriving from New York.
Et voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour le peuple? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs? Qu'a-t-on fait pour les paysans? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers? Qu'a-t-on fait pour les commerçants? Qu'a-t-on fait pour les artisans? Qu'a-t-on fait pour les cadres? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales? Alors je vois qu'on m'a compris.
Notre objectif prioritaire, c'est combattre le chômage. Moi, je suis Premier ministre du gouvernement, je me considère comme un chef de guerre contre le chômage. Nous allons entrer en guerre contre le chômage. Les Français verront que le gouvernement se bat contre le chômage.
Mais monsieur, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien dès lors qu'en automatisant la troisième révolution industrielle depuis le début du 19e siècle, dès lors que on peut fabriquer plus vite et pour moins cher des produits. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et moi aussi, aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit.
Je vous confie 25 personnes avec des pioches. Et je vous demande de me creuser un trou de 10 mètres sur 10 et je chronomètre. Avec les mêmes, il y en a un qui va mettre, avec son équipe, 2 minutes 30. Il y en a d'autres qui va mettre 2 jours et demi. Avec la même, avec les mêmes pioches, avec les mêmes types. Il y en a un qui saura leur expliquer comment faut faire, pourquoi faut le faire, pourquoi faut le faire vite. Puis il y en a un autre qui aura mal avec eux, qui saura pas leur dire, et le trou, il se creusera jamais. Autrement dit, trois qualités. Imaginatif, vendeur, meneur.
C'est ça la voie, à mon avis. Le travail redevienne une valeur dans la société française. Une valeur pour la France et pour tous les Français.
Alors, en tant que chômeur, je remercie tous les enfoirés. Je remercie les enfoirés de gauche qui nous ont fait croire que c'était la droite qui savait pas gérer et que c'est pour ça qu'on était dans la merde. Je remercie les enfoirés de droite qui nous ont fait croire que c'était à cause de ce qu'avait fait la gauche qu'on s'en sortait plus. Je remercie les enfoirés de patrons qui nous ont fait croire que c'était à cause de l'État qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et je remercie les enfoirés de syndicalistes qui nous ont fait croire que c'était de la faute au patron. Les enfoirés, se rejetant la faute les uns sur les autres, finalement, qui c'est qui l'a dans le cul? C'est nous, c'est ceux qui ont le cul.
Alors les chômeurs, lundi, qu'est-ce qu'ils mangent?
Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Et dimanche, oh quelle chance, pour le dessert des bonnes
terres.
L'opinion, ça se travaille, c'est comme le reste. Faut-il rappeler cette phrase prononcée lors de la crise du Kosovo par un haut gradé américain en charge de la communication lors d'un point de presse devant des journalistes béats et acquiescents? Faut-il rappeler cette phrase à l'heure où l'Amérique réussit?
The battle is now joined on many fronts. We will not waver. We will not tire.
Qu'ils ont l'air frais et fins, les anti-américains primaires qui ont râlé en disant « c'est pas notre guerre ». Günther Grass, par exemple, cet Allemand qui a accusé violemment les États-Unis d'avoir transformé, je cite, « les deux tiers de la planète en un camp de concentration pour pauvres ». Eh oui, nous avions bien raison de dire « nous sommes tous des Américains ». Pourtant, Timișoara, guerre du Golfe, Kosovo, trois crises, trois moments où les médias mensonges ont atteint des paroxysmes. absolue. Des moments où on a fait péter le déconomètre. Bon, ça arrive, ça se comprend. Le climat émotionnel collectif atteint son comble orgasmique et sont rares ceux qui gardent leur lucidité, qui savent dire non et résister. Mais après, la cuite, après la gueule de bois média, lorsque les cartes sont retournées, quel bilan, quelles leçons tirées, quels comptes viennent rendre les phares de nos pensées, arrière-pensées, prêtes à penser, qui se sont plantés de bonne foi, le plus souvent, manipulant, manipulé, pas seulement les intellos et les journaleux, mais aussi les politiques, mais aussi les syndicalistes, puisqu'il va être question du chômage, et puis nous tous, complices du désastre et de notre propre culture d'impuissance. Voilà ce à quoi l'on songe en regardant le film documentaire de Gilles Balbastre. Le chômage a une histoire, et c'est cette histoire que ce cinéaste, documentaire, historien, sociologue, tout ce que vous voudrez, a essayé de mettre en perspective et en forme, et trouver à cela un sens, et trouver derrière cela des idées, des idéologies, et non pas comme aujourd'hui, pour la plupart, nous le croyons encore, quelque chose qui relève d'un ordre naturel. Cette naturalisation du chômage est quelque chose qui nous est arrivé et qui nous arrive encore à l'intérieur de quoi nous sommes. Oui, l'opinion, ça se travaille.
À partir de ce moment-là, le progrès technique fait qu'il y a constamment des industries qui périclitent, fait que constamment la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup plus de machines. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. Comme un problème permanent. Comme un problème
permanent. Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'aquelles fois 800-900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60-70 bonhommes.
En permanence, on devra veiller.
Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants.
Parce que l'emploi soit assuré aux Français. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Nous serons donc en risque permanent.
En octobre 1975, Gilles Balbastre, on passe le cap des 1 million de chômeurs. Et là, il y a des extraits d'un documentaire tout à fait saisissant, où notamment on voit un cadre qui explique ce que c'est que le chômage, son chômage.
Bon, alors je me mets à mon bureau. Je prends mon cahier, qui n'est pas mon premier cahier malheureusement, mais qui est mon deuxième cahier.
Dans un deuxième document intimiste, les dossiers de l'écran font découvrir à une large partie de la France encore préservée du chômage le quotidien d'un cadre supérieur à la recherche d'un emploi.
Oui, vous me disiez que ça n'était pas le premier cahier. Qu'est-ce que vous faites sur ce cahier avec ce cahier?
Écoutez, sur ce cahier, c'est bien simple. Je découpe les annonces auxquelles j'écris et je les colle avec les réponses qui me sont données.
Ça représente des réponses à combien d'annonces?
Écoutez, pour l'instant, ça correspond à 268 courriers, donc 268 curriculum vitae que j'ai adressés. J'ai eu environ 260 réponses, 250 réponses, dont
combien?
240 négatives. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais absolument rien.
240 négatifs sur 260.
Négatifs, oui, on ne dit pas, on dit monsieur, même dans les 48 heures qui suivent la réception de la lettre, on dit monsieur, votre profil ne correspond pas.
Même si le chômage des cadres est encore quantité négligeable par rapport à celui des ouvriers, ce genre de document est révélateur de l'inquiétude ambiante. Le lendemain de l'émission, l'éditorialiste du Monde, Claude Sarraute, titrera son billet « La plaie béante du chômage ».
On voit bien la période 75-80, c'est une période de transition, finalement. Et notamment, je pense qu'il y a effectivement une pédagogie du chômage. Il faut montrer que ça peut atteindre même un cadre. Ça atteint bien sûr les ouvriers, mais aussi même un cadre. Il y a des journalistes comme de Closette qui expliquent au bon peuple que ce qu'il faut savoir du chômage, de la réalité économique. Mais il me semble qu'effectivement, la question, c'est un peu le seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'on sent qu'à l'époque, le seuil de tolérance du chômage est bas, quoi. 1 million, c'est déjà beaucoup, c'est un seuil. Et donc, parce qu'il y a ce rapport de force dans la société qui fait que on a encore peur de la classe ouvrière, du monde des salariés, qui est syndiqué, qui sait se défendre, qui est actif au niveau des grèves, etc. Tout ça, effectivement, a basculé, laminé par la vague de chômage. C'est pour ça que cette période 75-80 est très intéressante. Oui. On le voit aussi dans les entretiens avec les syndicalistes. Il y a encore un moment où il y a encore les bénéfices, et on peut dire, après 68, qui sont encore là. Et qu'après, ça sera...
Et la preuve, c'est qu'en termes d'économie, on est encore dans une économie très assistée, très encadrée par l'État. Chirac, quand il arrive en 74, fait un vrai plan de relance. Il embauche à peu près 40 000 fonctionnaires, notamment des lignards. Hein. On rattrape le retard à France Télécom, enfin à l'époque on dit au PTT, de notre retard au niveau du téléphone. On embauche 40 000 fonctionnaires. Hein. Chirac embauche 40 000 fonctionnaires. On augmente les prestations sociales, on fait un plan de relance, bon, qui n'est pas autant, parce qu'il n'y a pas tout ce côté nationalisation, mais qui ressemble par certains aspects à celui de Monroy en 81.
Il est même plus important.
Dans certains aspects, effectivement. Hein, mais il n'y a pas les nationalisations, il n'y a pas tout ça à côté, bien sûr, ça on peut pas. Mais au fond, c'est ça qu'il faut entendre, c'est que même pour la droite, dans ces années-là, une économie libérale de marché est encore aberrante. Ce sont des mots aberrants. On ne laisse pas le marché tout faire.
On n'a pas oublié ici le programme du candidat François Mitterrand qui, en 1981, s'engageait devant les Lorrains à ne plus licencier dans la sidérurgie. À Longwy, il ne fait plus bon être député socialiste.
Nous vous démissionnons! Nous vous démissionnons! Nous ne vous connaissons plus!
La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pure et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. On a voulu la nationalisation, on s'est battu pour ça. Ça changeait quoi? Ça n'a rien changé du tout.
Parce que moi, je travaille dans une usine où que la grève dépend directement du stock. C'est pas pour dire du mal, hein. C'est l'histoire de France qu'on raconte. Vous avez par exemple Lip, là! Boussac, là, Manu France. Ne m'appelez plus Manu France! La France est mal laissée tomber! Et un jour tu vas arriver! Parce que le maire de Saint-Étienne, où il y a Manu France, c'est un maire communiste. Il savait pas pourquoi il avait été élu aussi facilement. Eh ben, il vient de comprendre, là.
Si un jour, on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution, ainsi s'exprimait Georges Pompidou en 1967. En 1967, il y avait 250 000 demandeurs d'emploi en France. 35 ans plus tard, on en est aux chiffres que vous connaissez. Et que s'est-il passé en 35 ans? Eh bien, à l'époque, le travail était une richesse. Le travailleur produisait une richesse, et aujourd'hui, le travail est devenu un coût et le travailleur est devenu un boulet. Nous ne sommes plus en plus, aujourd'hui, nous sommes en trop. Comment s'est opérée cette mutation, ce changement social important pour des sociologues comme Stéphane Beau et Michel Pialoux qui sont avec nous, qui sont les auteurs de Retour sur la condition ouvrière, un livre qui a fait date chez Fayard. Eh bien, la peur sociale a changé de camp au cours de ces 35 années d'histoire du chômage. N'y a-t-il là-dedans que de la fatalité, que des forces conjoncturelles, structurelles, inévitables? Ou bien pouvions-nous agir différemment? Pouvons-nous aujourd'hui agir différemment, nous, c'est-à-dire les politiques, les syndicalistes, les salariés, enfin toute une société? Pouvons-nous reprendre les choses en main, comme on disait jadis? Sur quelle partie pouvons-nous agir? C'est des questions qui ont l'air qui avaient l'air saugrenues au cours des années 80 et qui aujourd'hui deviennent un petit peu plus sensibles et un peu plus importantes, il faut bien le dire. Donc on est avec Stéphane Beau et Michel Pialoux, je l'ai déjà dit, avec Gilles Balbastre et avec Serge Halimi du Monde diplomatique. Comment l'idéologie libérale s'est-elle progressivement installée, imposée, justement comme inéluctable, comme moderne? On parle de notre hexagone, mais cette révolution conservatrice, elle venait de plus loin, elle était en même temps, elle s'est produite en même temps que des gens comme Reagan ou Thatcher dirigeaient les États-Unis ou le Royaume-Uni, et cette révolution a été accompagné par des intellectuels, par des journalistes, par qui ont fourni l'habillage, si on peut dire, idéologique, notamment aux États-Unis dans les think tanks. Serge Halimi.
Oui, si on essaie d'analyser le basculement des idées, il faut voir qu'à partir des années 60, il y a un certain nombre de penseurs qui, dans des think tanks, qu'il s'agisse de l'American Enterprise Institute, qu'il s'agisse de Brookings ou d'autres think tanks au Royaume-Uni, décident de ne pas tellement s'intéresser au combat partisan, décident de ne pas tellement essayer d'influencer un parti, mais de transformer la structure de l'idéologie dominante pour que tous les partis, quels qu'ils soient, soient obligés de jouer sur le même terrain. Il faut voir que dans les années 70, tous les partis, quels qu'ils soient, droite et gauche, jouent sur un terrain qui est largement interventionniste. Richard Nixon, président républicain, dira: nous sommes tous keynésiens maintenant. 20 ans plus tard, tous les partis, quels qu'ils soient, jouent sur un terrain qui est très largement libéral. William Clinton, président démocrate, dit « l'ère de l'État fort est révolue ». Donc il y a eu une volonté délibérée et qui a été une volonté très largement gagnante de transformer les termes du débat idéologique pour que tous les partis, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, appliquent les mêmes politiques. Et c'est ce qui explique en partie la montée de l'abstention dans les pays occidentaux. C'est effectivement la prise de conscience d'un certain nombre d'électeurs que l'alternance ne change rien. Parce que, quels que soient les gens qui arrivent au pouvoir, ce sera pour appliquer la même politique. Ça se produit en France, mais ça se produit aussi à l'étranger. On le voit donc aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni à l'heure actuelle, où Blair est le digne héritier de Margaret Thatcher. On le voit même dans un pays qui est moins connu, mais qui, à mon avis, est plus emblématique, comme la Nouvelle-Zélande, où c'est une coalition de gauche qui lancera une vraie vague de privatisation, qui mènera une politique économique néolibérale qui rompra avec une politique interventionniste pratiquée par un gouvernement de droite. Donc en quelque sorte, les clivages politiques traditionnels ne sont plus pertinents. Le climat idéologique, le climat social a tellement changé que les partis politiques qui ont vocation à gouverner, quels qu'ils soient, sont presque contraints systématiquement d'appliquer la même politique.
C'est l'histoire d'une défaite sociale en fait, c'est 35 ans. 35 années d'histoire du chômage, c'est l'histoire d'une défaite sociale, ni plus ni moins.
Oui, d'une défaite politique aussi. Et c'est vrai que c'est l'écrasement peu à peu. On verra aussi dans les années 80 comment ça va se passer autour de la mise en place de la flexibilité. Hein. Ça va pas être facile. En 83-84, des négociations vont échouer entre le patronat et les syndicats pour mettre en place de la flexibilité. C'est extraordinaire dans le film. Maire, on a été voir Edmond Maire et Nota, et maire nous dit, nous on était d'accord, nous les dirigeants de la CFDT on était d'accord, mais la base elle voulait pas. La base voulait pas encore la CFDT. Ils n'avaient pas tout viré la base. Enfin, ils n'avaient pas viré la base un peu à gauche, ils l'ont viré après au congrès de 78, et là effectivement ils ont viré tous les contestataires qui faisaient aussi qu'ils refusaient de signer la flexibilité. Donc la CGT, la CFDT va refuser de signer la flexibilité. Un accord sur la flexibilité, et c'est Fabius qui l'introduit et qui la ramène et qui font avec Delbar notamment une loi sur la flexibilité, et au fond ça se fait pas comme ça, enfin ça va être dur, ça va être assez long quand même, on va le voir, ça va être toutes les années 80 pour rogner le droit, les acquis des salariés notamment qu'ils ont obtenus après-guerre et dans ce début des années 70. Ça va être un combat de 10-15 ans avec un certain nombre de trahisons, parce que là il faut dire ce mot-là, la CFDT a trahi, un certain nombre de politiques ont trahi, notamment au PS mais aussi au PC. Et après, des intellectuels. Alors là, un certain nombre d'intellectuels. Hein. Enfin, on n'est pas en train de voir des traits, de faire un procès, mais c'est la faiblesse, du coup, des cris qui vont aussi accompagner les batailles syndicales et les batailles du monde ouvrier.
Et bon, on rentre du boulot.
la joie par le travail, on en est loin. Refuser le travail, comme au début des années 70, sur le mode on ne va pas perdre sa vie à la gagner, la critique du boulot, les prisonniers du boulot font pas des vieux os, tout ça c'est des vieilles lunes. Il s'agit bel et bien de bosser. On a tous été rejetés du bateau, du canot de sauvetage, et il s'agit de s'accrocher maintenant au bord. Et il y a régulièrement quelqu'un, alors quelle main, qui nous tape sur les doigts et qui nous renvoie très loin. Il y a un dessin magnifique de Sempé, qui est ce petit personnage de Sempé, et qui dit « Moi, j'ai toujours rêvé qu'un jour, quelqu'un traverse la rue et vienne à moi et me dise oh, « Heureusement que vous êtes là, sans vous, il aurait manqué quelque chose à l'histoire de l'humanité. » Eh bien, c'est ce refus, cette relégation collective, individuelle surtout, qui s'est produite, qui caractérise ces 35 années finalement, au cours desquelles le chômage s'est installé, les inégalités se sont installées et ont été admises, acceptées comme on accepterait ben un changement de climat, tout simplement, comme une épouvantable tempête qui nous aurait frappé et à laquelle il aurait fallu se soumettre.
Bonjour, Guillaume, Vincent du Havre. Voilà, je suis en train d'écouter l'émission de ce soir. En ce moment, vous parlez du film Le chômage est une histoire. Je suis assez content sur le plan personnel parce que je suis en école d'ingénieur et dans mon cours d'économie générale, j'ai étudié ce film très intéressant, non pas pour le côté militant, mais pour, dans ce cas-là, le côté économique, hein, au niveau de la mise en œuvre de toutes les politiques. Et voilà, je voulais vous remercier de parler de ça, tout simplement parce que demain, j'ai un partiel dans lequel on me posera... des questions sur ce film et je suis l'émission avec beaucoup d'attention.
À partir des 80, la gauche arrive au pouvoir, et pour reprendre l'expression de Serge Halimi, là la gauche essaye, elle essaye au moins pendant un an, Serge Halimi.
Oui, pendant 18 mois, jusqu'en juin 82, et après quand les premières difficultés économiques assez largement prévisibles se produisent, la question est de savoir comment ces difficultés économiques vont être interprétées. Et compte tenu du climat idéologique dominant et du rapport de force sociale, ces difficultés idéologiques vont être interprétées à travers une grille de lecture conservatrice, néolibérale. On s'est planté parce qu'on a appliqué des politiques trop à gauche, donc on va faire comme Thatcher, on va faire comme Reagan, on va faire comme ce qui se passe ailleurs.
Et Qui dit ça?
C'est ce que les intellectuels d'abord essaient d'expliquer, et c'est ce que les dirigeants de gauche acceptent. Il faut voir qu'en 82, il y a quand même une date très importante dans l'histoire économique et sociale, c'est l'arrêt de l'indexation des salaires sur les prix. À partir de ce moment-là, la classe ouvrière va perdre son pouvoir d'achat. Cette évolution qu'on avait déjà observée ailleurs, elle se manifeste aussi en France. Et il faut insister sur le fait que ça s'est passé effectivement sur fond de défaites ouvrières à l'issue de grèves très dures, et pas seulement en France. Aux États-Unis, Reagan arrive au pouvoir, grève des contrôleurs aériens, il licencie, il révoque 10 500 grévistes qui n'ont plus de travail du jour au lendemain. Au Royaume-Uni, ça se produira un peu plus tard avec la grève des mineurs de 84-85, qui est une énorme défaite pour le mouvement ouvrier britannique. En France, il y aura pratiquement la guerre sociale dans les régions sidérurgiques. Donc il y aura un certain nombre de conflits très durs qui se traduiront tous par des échecs de la classe ouvrière qui indiqueront suffisamment aux classes dirigeantes qu'elles peuvent y aller, qu'il n'y a plus d'obstacles majeurs et qu'il est maintenant temps de procéder au grand ajustement, à la grande revanche sociale sur ces conquêtes qui avaient été concédées dans les années 60 et dans les années 70.
Selon vous, Stéphane Beau et Michel Pialoux, pourquoi la classe ouvrière à cette époque-là échoue-t-elle ?
Beaucoup de raisons, hein. Il y a des nouvelles thématiques idéologiques. On ne les a pas évoquées, mais par exemple le thème de l'exclusion apparaît à ce moment-là, où se constitue fortement le thème de la nouvelle pauvreté. Et il y a cette idée qu'il y a une grande classe moyenne qui existe, qui se gonfle et qui inclut ceux qui étaient autrefois du côté des ouvriers. Et puis il y a une coupure nette. Il y a les exclus vis-à-vis desquels il faut mettre mettre en place de nouvelles formes de traitement ou des choses de ce genre. Et tout ça est accepté, y compris par les organisations politiques ou les syndicats, sans grande protestation, comme allant un peu de soi. Donc les nouvelles lignes de l'espace social, elles se constituent à ce moment-là. Et il y a
pour remplacer la lutte des classes. On ne peut plus entendre parler de lutte de classe. On dit il y a une grosse, une classe moyenne, un ventre mou là, puisque les ouvriers sont enrichis. Bon ben voilà, on parle plus d'ouvriers, c'est ça que vous dites?
Voilà, voilà.
Et puis
voilà.
Il y a les exclus, ben c'est les perdants. C'est un peu winner loser. Quoi. Il y a voilà. Les gagnants, les perdants.
Voilà.
Je vous confie 25 personnes avec des pioches. Je vous demande de me creuser un trou de 10 mètres sur 10 et je chronomètre. Avec les mêmes, il y en a un qui va mettre avec son équipe 2 minutes 30. Il y en a autre qui va mettre 2 jours et demi. Avec la même, avec les mêmes pioches, avec les mêmes types. Il y en a un qui saura leur expliquer comment faut faire, pourquoi faut le faire, pourquoi faut le faire vite. Puis il y en a un autre qui aura mal avec eux, qui saura pas leur dire, et le trou, il se creusera jamais. Autrement dit, trois qualités. Imaginatif, vendeur, meneur.
Il n'y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes, ce que vous voulez, rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain. C'est ça la réalité des choses.
Chômeurs, rendez-vous, vous êtes cernés. Sortez immédiatement de votre exclusion. Dernière sommation. Sortez en marche arrière, la tête baissée. Vous allez être réinsérés par nos travailleurs sociaux. Rendez-vous sans condition.
Dans le film de Gilles Balbastre, on voit des syndicalistes qui étaient des acteurs à l'époque, pour Edmond Maire, Ségui, Vianney, Krasucki. On voit aussi des représentants syndicaux d'aujourd'hui, comme Nicole Nota, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce moment où la classe ouvrière, pour reprendre votre expression, ne trouve plus dans le syndicalisme son expression politique, son existence sociale?
Oui, il y a un point tout à fait important, c'est les jeunes qui vont décrocher.
C'est quand ?
Ah bah à partir de ce début des années 80, hein, lorsque
la gauche arrive.
Lorsque bah oui, en même temps, c'est l'explosion de la précarité, c'est l'explosion des CDD, c'est l'explosion de l'intérim,
aussi de tous ces aménagements hein, du voilà, travail qui vont biaiser le SMIC. Au fond, on va trouver des métiers, des formes de statuts sociaux bâtards, les TUC, les CES, etc., les contrats d'emploi de solidarité, et au fond, on les met en marge d'un statut. Et comment voulez-vous, quand vous êtes en marge d'un statut, vous syndiquez ou en rapport avec les syndicats qui, bon, ne sauront pas trop gérer ça, effectivement, mais...
À la fois, il y a la peur, parce que si on se fait repérer comme proche des syndicalistes, c'est très important, cette peur va dominer. Hein. À partir de ce moment-là, s'approcher d'un syndicaliste, c'est se faire repérer et être exclu. Et puis, il y a aussi le sentiment que vos intérêts coïncident pas avec ceux des générations âgées. Et ça, c'est très fort hein, aussi. La conscience que les jeunes ont de la distance qui, objectivement, de plus en plus les sépare des autres, ça devient important.
Juste aussi rajouter quelque chose sur l'aspect idéologique. Il me semble aussi que dans ces années 80, il y a aussi le fait que il y avait quand même l'espoir communiste, quoi, l'espoir des pays de l'Est. Et on voit très bien que quand on fait des entretiens avec les jeunes, cet aspect-là, le fait même qu'on puisse comme ça espérer changer la société avec la crise des pays de l'Est, l'effondrement du mur de 89. Effectivement, en 89, on voit très bien que pour les jeunes ouvriers, c'est tout à fait différent. Il y a pas cette socialisation politique qui se faisait via les jeunesses communistes, etc. Il me semble que là, on voit très profondément une rupture entre les générations ouvrières. C'est pour ça que quand on dit classe ouvrière, c'est vrai que c'est un mot qu'il faut déconstruire aussi. Il faut analyser la manière dont le groupe ouvrier s'est constitué selon les générations. Et c'est vrai, là, on pense aux travaux de Gérard Noiriel sur, il raconte très bien comment il y a une génération singulière en France qui s'est créée entre 36 et 45 et qui a porté littéralement le groupe ouvrier pendant 30 ans et qui était cette génération des acquis avec le poids dont parlait Michel Pelloux très important des ouvriers professionnels. Donc si on avait le temps, on raconterait en détail la transformation morphologique du groupe ouvrier.
J'ajoute encore une chose, mais qui est très importante, c'est les intellectuels, dans les années 68-75, ils ont fait des choses avec les ouvrières. Hein. Nous, on a suivi les travaux des cinéastes, mais à Sochaux, il y avait un groupe Medvedkin qui réunissait des cinéastes, Godard, Bruno Muel, beaucoup d'autres gens qui ont fait de nombreux films. Mais le rapport à la culture chez ces jeunes-là, mais c'était un rapport de fascination que des jeunes ouvriers d'aujourd'hui ont de la peine à concevoir, imaginer.
Les CE, par exemple, voilà, pouvaient aussi travailler sur la culture et se contentaient pas de faire l'heure de Noël comme maintenant, ou de faire des places, des comités d'entreprise, ou font des places gratuites ou moins chères pour Euro Disney. Enfin, je veux dire que on résume aussi là, on est dans une émission. Il y avait des rencontres possibles. Il y a de moins en moins de rencontres possibles. Absolument. Et ça, effectivement. Mmh. Et ça, d'avoir fractionné comme ça la société, de l'avoir en fait au fond individualisé. Il y avait des collectifs. On peut résumer ça aussi. Mmh. Et une des façons aussi, ça va être de briser le collectif et de briser le collectif même dans les négociations. Une grande idée du patronat, ça va être de casser les conventions collectives aussi et de faire que il y a le mérite, hein, il y a l'individualisation des situations. On ne grimpe plus parce que on attend d'ancienneté, parce que on rentre dans une grille, mais parce qu'on est compétent et un certain nombre, notamment de classe moyenne, vont jouer ce jeu-là. On souhaite jouer ce jeu, mais bien sûr, attendez, c'est pas parce qu'ils ont ça en eux, hein, parce que ça va être travaillé par la culture, ça va être travaillé par la télévision, ça va être travaillé par le cinéma, par la littérature, par tout ça, de l'individualisation. Hein. C'est soi, on se réalise soi, etc. Et que quand on est soi, on a du mal à se retrouver avec l'autre dans un collectif. Et ça va être alors du beurre pour les classes dominantes, pour faire exploser tout ça et pour prendre réellement le pouvoir et pour faire changer la peur sociale de Camp.
Objet cadeau recherche pour grands magasins Paris et périphérie. Vendeuse. Excellente présentation, expérience CDD, novembre, décembre, fixe plus prime. Pour rendez-vous, téléphonie. Distribution objet cadeau recherche pour grand magasin. Ça m'intéresse pas. Boulangerie 20e recherche caissière vendeuse mi-temps, après-midi repos dimanche et lundi. Boutique de luxe, table maison cadeau. Boutique recherche vendeuse, stock 81, allez-y à Paris 14e.
Le chômage a une histoire, c'est le documentaire de Gilles Balbastre qui raconte plus de 30 années de chômage. Alors, évidemment, ça raconte une trahison, ça raconte une imposture, si on veut, ou bien ça raconte, comme on le raconte le plus souvent, d'ailleurs on raconte rien, tout simplement, ou bien on dit, ben voilà, c'est quelque chose de naturel, mais quand même de moins en moins, parce qu'on commence à prendre conscience un peu et mettre en perspective cette époque. Et c'est pas seulement des politiques, une classe politique qui tourne Kazakh brutalement au cours au début des années 80, mais c'est aussi des journalistes, des intellectuels, des artistes, des gens des médias qui étaient de gauche et qui soudain désertent ce terrain et s'intéresse à Margaret Thatcher ou à l'Amérique de Reagan. Et chez Pivot, dans l'émission du bon Bernard Pivot, on voit un certain Alain Minc qui fait l'éloge du profit, on voit Laurent Geoffrin qui exalte le patron qui gagne. Et puis en 1984, c'est la fameuse émission Vive la crise, en collaboration avec le journal Libération, animé par Yves Montand, qui s'adresse à la France les yeux dans les yeux et qui dit « La crise, mais quelle crise ? Nous sommes riches, nous allons bien. Alors où est le problème ?»
La télévision de l'époque, en dehors du journal télévisé, s'intéresse peu aux victimes de la crise. En revanche, le nouveau réalisme économique se traduit par une avalanche d'émissions censées faire admettre aux Français les bienfaits de l'économie de marché. « Vive la crise », diffusée en février 1984, est à ce titre révélatrice du retournement idéologique d'une partie de la gauche. Présentée par l'acteur Yves Montand, longtemps proche du Parti communiste, l'émission est faite pour choquer la France des années 80.
La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Bah, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables.
Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons.
Est-il souhaitable de transformer les chômeurs en fonctionnaires ?
Tout au long de l'émission, les auteurs de Vive la crise vont démolir une à une les valeurs derrière lesquelles, quelques mois avant, une partie de la gauche se rassemblait. Un journaliste de Libération, Laurent Geoffrin, n'hésite pas à fustiger les dépenses de l'État et ose un parallèle hasardeux entre le nombre de fonctionnaires et le poids du chômage.
Depuis 10 ans, la part du revenu prélevé par l'État sous forme d'impôts et de cotisations sociales est montée à près de 50%. Cet argent sert pour une grande part à financer les salaires de la fonction publique. Mais cet argent a fait défaut aux entreprises. Depuis 10 ans, l'investissement industriel a cessé de progresser. L'Europe compte aujourd'hui 12 millions de chômeurs.
Ah, mec, qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche?
Oui, c'est la question à 100 francs.
Ah ben, je sais pas. Non, mais...
C'est une distinction. Donc, j'essaye de faire une distinction entre un libéral de gauche et un libéral de droite. La distinction. Le libéral est quelqu'un qui croit aux vertus du marché. Le libéral de droite, je commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique. Le libéral de gauche, croit que le marché, outre façon de vertu économique, peut être un moyen assez brutal de changer la société, et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à plein.
Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin.
Oui. Ah bon, donc vous trouvez ça, c'est bon ça?
C'est excellent.
Et ça n'existait pas de votre temps?
Ben, ça existait, le marché a toujours existé.
Mais je veux dire,
mais il valait mieux pas s'en vanter.
Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter.
Le titre même de Vive la crise est un titre très révélateur. Parce que jusqu'alors, il y avait des crises cycliques, conjoncturelles, dans une économie capitaliste qui était habituelle, et puis on revenait à l'état de choses précédent. Là, il y a l'idée d'utiliser la crise, de profiter de la crise pour transformer la donne sociale. Faire que rien ne soit plus jamais comme avant.
Donc, c'est une révolution conservatrice.
Une contre-révolution, une révolution voilà. Conservatrice, qui est d'ailleurs tout à fait à l'aune de ce qui se passe ailleurs, et notamment aux États-Unis, parce que quand on dit vive la crise, on dit Yves Montand, il faut se souvenir qu'Yves Montand, on envisagera même qu'il soit candidat à la présidence de la République, comme un autre acteur américain, suivez mon regard, Ronald Reagan.
Et le parallèle entre
Montand et Reagan sera constamment suggéré à l'époque. Et dans Vive la crise, quels sont les personnages qu'on voit? On voit Laurent Geoffrin, on voit Alain Minc, on voit Christine Ockrent, on voit Philippe de Villiers en jeune entrepreneur dynamique. C'est comme ça qu'il est présenté à l'époque. Donc en quelque sorte, on voit tous ces personnages qui vont jouer un rôle moteur dans cette conversion idéologique, à la fois des classes dirigeantes, mais aussi de l'ensemble de la population, et dans cette conversion aux acquis de la révolution ou de la contre-révolution libérale. Parce que ce qui est intéressant dans le cas d'une émission comme Vive la crise, c'est que ces idées-là viennent plutôt de la gauche, entre guillemets. Quels sont les grands supports de presse derrière ça? C'est surtout Libération et c'est le Nouvel Observateur. Gilles Balbastre évoquait François de Closet. François de Closet, il fait des papiers dans le Nouvel Observateur à l'époque, où il défend ces idées-là de remise en cause de l'État, de lutte contre la bureaucratie, contre le syndicalisme, le toujours plus, etc. Libération est le grand organe du capitalisme qui veut vraiment moderniser les choses et balayer l'État traditionnel associé à De Gaulle, à Pompidou, à une France en noir et blanc, à une France triste, pour instiller les valeurs de l'innovation, du nomadisme, de la compétitivité, de l'ouverture.
De la réussite. Et Tapie va incarner ça formidablement.
Et il sera ministre d'un gouvernement de gauche.
Vous voulez que je lise le texte de Laurent Geoffrin paru dans le supplément de Libération, partenaire de l'émission? Il dit, comme ces vieilles forteresses reléguées dans un rôle secondaire par l'évolution de l'ère militaire, la masse grisade de l'État français ressemble de plus en plus à un château fort inutile. La vie est ailleurs. Elle sort de la crise par l'entreprise, par l'initiative, par la communication. Nous sommes le 22 février 1984. Au même moment, plusieurs centaines de milliers de sidérurgistes de mineurs sont licenciés. C'est le plan acier. Et là, effectivement, on aurait bien aimé avoir une caméra dans un foyer de sidérurgistes de Longwy pour voir comment ces ouvriers qui avaient voté massivement en 81 pour François Mitterrand, recevaient cette trahison par des gens qui étaient proches d'eux. Je précise que Laurent Geoffrin a été membre du CRS dans les années 70, que Attali était à gauche, que Minx se proclamait, on le voit dans l'apostrophe, libéral de gauche. C'est-à-dire, c'est une véritable trahison. On ne mesure pas, attendez pour finir, on ne mesure pas assez la violence qui a été distillée à cette époque-là. Face à une classe ouvrière en pleine détresse, elle est immense. Elle est immense. Et peut-être que, effectivement, le Front National et Le Pen est aussi leur production quelque part. Et ça, ils le diront jamais. Au fond, ces gens-là ont créé une immense violence. Ils se gardent bien aujourd'hui de le dire. Et effectivement, ils aimeraient que nous sommes comme dans la situation de Big Brother. Vous savez, on efface les paroles du maître. On les reconstruit, on rechange les pronostics. Eh ben, nous, on veut pas, moi, je ne veux pas refaire les pronostics. Je mets ce qui a été dit à cette époque. Et effectivement, ça peut faire mal.
Le message est clair. Les gagnants sont ceux qui osent et qui prennent des risques. Les perdants sont ceux qui restent accrochés à leurs acquis et sont assistés par un état-providence qu'il faut abattre. La conclusion coule de source et nous est donnée par un Yves Montand transformé par la crise.
C'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïve, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Les documents étonnants. Dans le documentaire de Gilles Balbas, on a parlé beaucoup de Laurent Geoffrin. Je vous signale un livre de cet auteur, de ce confrère, La démocratie sans le peuple, qui vient de sortir, où l'auteur ambitionne de chercher des ponts entre le peuple et les responsables progressistes et de suggérer des voies de la réforme de la politique pour contrer l'économie, comme quoi on peut changer dans la vie. On continue avec nos invités, encore quelques minutes, Gilles Balbastre, Serge Halimi, Stéphane Beau et Michel Pialou, autour de ce documentaire, donc Le chômage a une histoire.
Une responsabilité aussi peut-être, pour le dire aussi, peut-être aussi d'un certain PC ou d'une certaine CGT de l'époque aussi, il ne faut pas non plus, parce qu'effectivement c'était un PC très dur et qui aussi, certains étaient bien contents un peu qu'il la ramène moins ou différemment, enfin je veux dire, il y avait une chape de béton aussi, alors faut
absolument, remettre c'est aussi. Absolument, c'est bien de cela que je veux parler.
Voilà, oui. C'est ça, hein, c'est très long, hein, c'est un vrai travail. Voilà, c'est un vrai travail et il ne faut pas uniquement effectivement taper, là j'avais l'impression de taper sur Laurent Geoffrin, mais ce sont des pions au fond.
On est en train de parler d'idées, on est en train de parler d'idéologie, de réalité sociale, etc. Ce qui a accompagné tout ce discours, c'était il n'y a plus d'idéologie. Les choses ont été présentées comme allant d'elles-mêmes, allant de soi. On n'y peut rien. Il y a des réalités
naturelles,
économiques.
Naturel et économique, c'est la même chose, c'est comme la météo. Et puis ça vient de l'extérieur, ça vient des États-Unis, donc on n'y peut rien, ça vient. Le monde est ainsi, désormais, et on est désolé. Et il y a ce moment formidable dans votre film où vous montrez un François Mitterrand qu'on a vu quelques instants auparavant, militant, un véritable grand militant ouvrier, qui, face à un jeune homme dans une émission de télévision, qui lui pose une question sur l'emploi, et qui répond « Nous n'y pouvons rien ».
Monsieur, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien, dès lors qu'en automatisant la troisième révolution industrielle depuis le début du 19e siècle, dès lors que on peut fabriquer plus vite et pour moins cher des produits. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et moi aussi, aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit.
On n'y peut rien, c'est la fatalité, renonçons, et puis soyons gais si possible.
Et après il y aura, grosso modo, un libéralisme sauvage, et un autre teinté vaguement d'humanisme. Voilà. Grosso modo, c'est ça le débat et l'enjeu.
Ce que vous entendez en ce moment, ces gens qui discutent avec des idées, avec des repères historiques, etc., c'était plus du tout la mode. Il fallait pas du tout parler comme ça. C'était un discours tout à fait ringard. Il fallait admettre les choses, évidemment, avec un petit sourire. Écoutez, enfin, c'est comme ça aujourd'hui. Sinon, on était archaïque.
Surtout pour ceux qui souffrent pas, hein. Surtout pour ceux qui gagnent 40, 50 000 francs par mois, qui ont des acquis, etc. Parce que c'est ceux-là qui ont dit aussi, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ils disaient à ceux qui, eux, excusez-moi l'expression, ont chié, on n'y peut rien. Mais eux, ça va. Pour eux, s'ils avaient été à 3 000 francs par mois ou au SMIC, ou au RMI, pardon, là, ils auraient peut-être eu un autre discours, hein.
Je sais que certains ont des pudeurs effarouchées à parler de flexibilité, mais je vois pas pourquoi. La flexibilité, c'est très bien. Il faut dire que c'est de la flexibilité. Alors on tourne, on emploie d'autres formules, je ne sais plus lesquelles, soi-disant plus pudiques, mais personne ne s'y trompe. Il faut dire que c'est de la flexibilité, mais personne ne s'y trompe.
Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent.
Comme un problème permanent.
Comme un problème permanent.
Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'à quelque fois 800, 900 bonhommes. Tandis que vous avez des usines qui emploient 60, 70 bonhommes.
En permanence, on devra veiller.
Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants.
À ce que l'emploi soit assuré aux Français. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage est générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Oui, bonsoir, c'est Sylvie du Pas-de-Calais. Je vous appelle pour réagir suite à l'émission de ce jour sur l'histoire du chômage. J'ai trouvé que c'était très intéressant, très émouvant. C'est vrai que ça nous rappelle un petit peu toute cette histoire qu'on oublie quand on entend justement Pompidou parler des 250 000 chômeurs en 67. On est vraiment loin de tout ça. Je travaille à la NPE, donc je suis conseillère à l'emploi. Je suis chaque jour face à des demandeurs d'emploi. Et j'en parlerai demain à mes collègues. J'aimerais bien... en savoir un peu plus sur ce film afin que mes collègues le regardent. Voilà, je vous remercie pour vos émissions très intelligentes et bonjour à tous. Au revoir.
Il est 8h, il faut travailler. Ouais. Il est 8h, il faut y aller. Ouais.
Ouais. Alors, pour répondre à Sylvie, le film Le chômage a une histoire sera projeté le dimanche 9 mars dans le cadre de la première édition du festival Critique sociale du capitalisme à Lille à 15h, salle Alain Collat, l'adresse sur les 53 rue Marbrerie à Lille et le contact le 06 63 57 07 72 06 63 57 07 72. La projection du film sera suivie d'un débat avec Serge Halimi et sous réserve Patrice Carvalho. À la technique aujourd'hui, Gaëtan Collier et Étienne Michka, assistant Joël Levert, assistant Coy Nguyen, le chef répondeur c'est Christophe Humbert, et à la réalisation, Antoine Chao. Et pour vos messages, le répondeur de la base, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et l'email daniel.mermet@radiofrance.com.